Je suis d'un autre pays que le vôtre, d'un autre quartier, d'une autre solitude. Je m'invente aujourd'hui des chemins de traverse. Je ne suis plus de chez vous. J'attends des mutants.
No go,
Enlève tes boules caisses, fais péter les watts en attendant les mutants et décibels sur Radio PFM 99.9 en direct du lundi au vendredi à partir de 18h30 et jusqu'à 19h. Aujourd'hui, Elena est avec nous dans les studios. Elle nous parlera BD. Elle a rencontré samedi dernier l'auteur Julie Marot. Un petit peu de musique et un petit peu d'actu concert. Et puis, promis, juré, craché en fin d'émission, les cadeaux. Salut Elena.
Salut.
Alors, on va te retrouver dans quelques minutes hein, pour nous parler de BD. Et avant ça, on va écouter un petit peu de musique. Est-ce que tu sais ce que c'est le beatboxing ?
Oui, je sais ce que c'est, mais je serais bien incapable de te faire une démo là, tout de suite.
Alors, le beatboxing, hein, c'est les mecs qui font de la musique directement avec leur bouche. Et l'un des maîtres du style, du genre, en fait, de cette technique, sera ce soir à la Maison Folie de Wazem. C'est un anglais, il s'appelle Killa Kiela. Et il sera là avec un groupe. Et dans ce groupe, il y a l'ex-batteur de Franz Ferdinand, il s'appelle Andy Knowles. Donc, la soirée s'appelle Boogie Night 2. Ça se passe à la Maison Folie de Wazem à Lille. Donc, outre Killa Kiela, il y aura aussi DJ Dynasty, on va dire un pionnier des DJ français, le roubaisien Boulawan, DJ Forma qui est un DJ anglais me semble-t-il, Lack of Afro, et puis un mec que tu connais peut-être, Sydney, un danseur.
Non, absolument pas, désolé.
Tu ne regardais pas l'émission HIP HOP en 1984 sur TF1?
Non,
bon, c'est un peu un des...
J'étais pas né, désolé.
un des mecs qui a popularisé en fait, le breakdance. Voilà, en France.
Donc, mais ça donne envie.
Donc voilà, c'est ce soir à partir de 20h30 à la Maison Folie Wazem. Et donc on écoute Killa Kiela, puis on te retrouve Elena juste après pour nous parler de BD. Skills, two, three, four. Skills, two, three, four. Skills, two, three, four. Ladies and gentlemen, we are at war. We know the circumstances. Trying to choose something.
Artillery, yo. And completely destroyed it. the cobra. Clutch like Sergeant Slaughter just for general purpose. Acrobatic, aka corporal punishment at your service. The leader of the tanks. My infantrymen are lined up in the proper phalanx. Charged wherever they have to go. I'm Captain America, but I'm also international admiral. Killer Keller's my lieutenant. He'll ransack the thoughts from your brain and replace them with new tenants. Your ignorance evicted. Now you're no longer afflicted, and now you can face the wicked. I'm partial to giving motherfuckers court martials. So if you join the movement in front, we might have to squash you. Been through basic training, and I'm sly like a fox now. When I roll with my regime, it's like the old parades in Moscow. So whether communist, socialist, monarchist, or democratic, I hope you're anti-evil like your brother acrobatic. And if we're gonna overcome and end the misery, we gotta hit them hard with the heavy artillery.
Bonsoir à tous, je vais vous parler d'un regard intrigant mêlant malice et tendresse. Ce regard croisé un jeudi soir est celui d'Emma. C'est l'un des personnages de la bande dessinée intitulée « Le bleu est une couleur chaude » parue aux éditions Glénat. Julie Marot, son auteur, était présente au Salon du Livre du 1er mai à Arras. Elle a eu la gentillesse de se prêter au jeu de l'interview au micro de PFM. On l'écoute et on se retrouve après. Je suis en compagnie de Julie Marot qui a accepté une interview après une longue séance de dédicace. Merci Julie.
De rien.
Pourrais-tu te présenter et nous parler de ta première bande dessinée intitulée « Le bleu est une couleur chaude » parue aux éditions Glénat.
Je suis arrageoise d'origine, je suis née à Lens mais bon, j'ai grandi ici, j'ai fait mon collège à Saint-Nicolas. Je suis montée ensuite à Roubaix où j'ai fait les SAT en art appliqué et tout de suite après derrière encore Bruxelles pour faire Saint-Luc en bande dessinée. Et j'ai commencé « Le bleu est une couleur chaude » à côté des cours, donc c'était mes fonds de tiroir. Puis un jour je l'ai sorti, j'ai montré un éditeur et ça s'est fait comme ça. C'est l'histoire de Clémentine qui tient un journal adolescente et qu'on suit de cette manière-là à travers le journal, qui se rend compte qu'elle tombe amoureuse d'une fille. Et donc c'est la catastrophe, évidemment.
Le travail sur les regards est vraiment important dans ton ouvrage. Pourquoi cette attention particulière au regard ?
Je ne sais pas. C'est une question qu'on me pose souvent, mais c'est quelque chose de très naturel et à mon avis qui est important dans la suggestion. Le regard, forcément, il est primordial pour ce genre de choses, que c'est le miroir de l'âme et que donc il y a tellement de choses qu'on arrive à faire passer en un regard. Et c'est peut-être pour ça qu'il y en a tellement dans le livre.
La justesse de l'émotion, elle est assez impressionnante à travers tous les regards. On comprend beaucoup de choses et c'est même incroyable d'arriver à faire passer tout ça avec des dessins. Est-ce que t'as un secret ?
J'ai pas de formule de travail pour ça, en fait, parce que je suis obligée de me transposer dans mes personnages. Bon, c'est pas l'autobiographie, mais c'est juste, il faut réussir à se projeter. À partir de là, je pense que le travail de dessin, il se fait automatiquement au niveau de la mise en scène, en tout cas, de ce qu'on veut faire passer.
Enfin, un des regards qui m'a beaucoup touchée et impressionnée, c'est la technique à un moment où Emma croise dans la rue Clémentine.
Ouais,
elle se regarde. On a un moment, un zoom un peu sur son regard. Tu as choisi de découper en deux bulles, les yeux et en dessous la bouche. Alors pourquoi cette technique ?
En fait, je pense que quand je travaille mon découpage de l'histoire, j'ai une vision très cinématographique, j'ai envie de dire. Si ça avait pu être poussé dans l'idéal, l'utopie totale, le bleu est une couleur chaude, j'aurais aimé que ce soit, je sais pas, un film ou un dessin animé. Et donc j'ai une manière très cinématographique de penser mes cadrages. Et donc pour moi, pour ces cases en question, il y a d'abord le regard et ensuite le sourire qui vient. Comme si Clémentine voyait d'abord le regard et le sourire, même si c'est un visage, ça se passe en deux temps. Donc il y a deux cases.
Tu travailles aussi sur les mains, notamment lorsque Clémentine fait un rêve érotique et dans ce rêve il y a Emma.
Oui.
Et les mains d'Emma, justement, la parcourent et ses mains et ses avant-bras sont bleus. Alors déjà,
Pourquoi ce choix? Et surtout aussi la question, c'est peut-être pourquoi le bleu? Est-ce que ça aurait pu être une autre couleur?
J'ai commencé à dresser cette technique narrative pour un concours. C'était une planche que je devais rendre pour un concours à Paris et c'était en 2004-2005. Et du coup, il faudrait juste me demander pourquoi j'ai fait ça à ce moment-là, et donc je saurais plus répondre avec le recul. Ce que je trouve intéressant dans ce traitement-là, c'est qu'on a deux temps de narration dans l'histoire. Il y a le présent, qui est tout en couleur, et il y a le passé. Et pour moi, quand on a des souvenirs de personnes ou d'événements de nos vies, on n'a pas tout gardé à la même échelle, en fait. C'est impossible. On a ou des odeurs, ou des sensations qui sont préservées, ou peut-être des couleurs. Et donc, pour moi, ce bleu, c'était ça aussi. C'était juste venir sur des détails importants de ce qui est resté vraiment figé dans la mémoire. Et dans le livre, c'est la couleur représentative de l'être aimé. Donc il est là en tant que couleur de l'être aimé aussi. Maintenant, la scène avec les mains, c'est juste une manière de se laisser envahir aussi, je pense. Comme s'il n'y avait plus de barrière et qu'elle cède à ce fantasme.
Je voulais te parler d'une planche dans laquelle on voit Clémentine en position fœtale.
Oui.
Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce choix ?
Pour cette page, on voit défiler 10-15 années, de l'adolescence à l'âge adulte. Il y a le texte avec qui explique que bon, c'est pas tout rose du tout. Et la position fœtale, elle est là aussi comme position rassurante.
Julie nous parle de l'importance pour elle de raconter l'histoire d'Emma et de Clémentine dans une vision beaucoup plus large que l'intimité.
Mais la notion d'homosexualité, à mon avis, elle ne peut pas s'arrêter là. Il y a toujours l'autre qui est en question, quoi, qui remet en question ce qu'on vit, ce qu'on ressent, comment on est avec les autres, quoi, tout simplement. Et donc ça reste malgré tout un combat dans le collectif aussi. Donc c'était évident de l'aborder de cette manière.
Pensez-vous que votre bande dessinée contribuera à faire changer le regard de l'autre sur l'homosexualité ?
Le livre, c'est, j'ai envie de dire que c'est pour ces gens-là que je l'ai fait. Ça ne m'intéresse pas de prêcher des convaincus. Et j'espère que ça pourra apporter une pierre à l'édifice. Ça serait super. Là, j'ai que des retours excellents sur l'album, des gens qui ont vraiment des propos très touchants sur ce que ça leur a fait ressentir et la manière dont ça les a fait plus ou moins changer d'avis, on va dire. J'espère que déjà là, sur le sujet de l'homosexualité, ça puisse faire tomber certaines œillères que certains se mettent devant les yeux, quoi.
Julie nous livre son point de vue sur l'homoparentalité.
Au niveau de l'homoparentalité, bon là, c'est pas tellement abordé. C'est une réalité en France, ça concerne 30 000 enfants, il me semble, c'est pas rien. Et le gouvernement fait rien pour autant et continue à nier du coup l'un des parents de l'enfant. Et je pense que c'est le gouvernement qui déconne complètement là-dessus parce que c'est une réalité qu'il faut faire avec et qu'en attendant on dit oui. Enfin je sais même pas ce qui prêche comme raison quoi pour invoquer le fait de pas
l'équilibre de l'enfant je pense.
Oui voilà mais je veux dire donc nier l'un des parents c'est tellement plus équilibré pour un enfant c'est sûr. Moi je suis absolument d'accord avec notre gouvernement tiens là-dessus. Mais moi je ne l'ai pas abordé parce que sinon j'en avais encore pour 200 pages de plus. Hein. Il faut bien que j'arrête un moment, mais peut-être que je ferai une autre histoire là-dessus plus tard.
Effectivement, ça ne m'étonne pas que tu aies reçu des messages d'encouragement, des propos positifs parce que. Entre la technique, les regards, les mains, l'histoire qui est très touchante. Je pense que peu importe d'où on vient, peu importe si on est noir, blanc, hétéro, homo, homme, femme, on est forcément touché par l'histoire et il y a forcément quelque chose qui nous rappelle à notre vécu. Et je pense qu'il fallait le faire, ce livre. Merci de l'avoir fait.
Merci de le dire. C'est voilà. Gentil.
Est-ce que tu as été contacté par des associations lutte contre l'homophobie, homoparentalité ou quoi que ce soit pour intervenir, faire des conférences, des rencontres ?
Pas encore. Je sais même pas si dans le milieu ça parle du livre parce que le milieu de la BD c'est assez ésotérique. C'est par rapport à ce qu'on peut croire, ça reste assez petit au niveau de la littérature générale. Donc je sais pas trop comment véhiculer mon livre dans le milieu. Je sais comment il marche en librairie. Moi, je me suis pas non plus intéressée à aller vers les gens pour ça, parce que j'estime que, en fait, je dis les choses d'une certaine manière. Là, c'est en bande dessinée, c'est à la fois du texte et de l'image. Et que dès que je commence à être en interview, à devoir parler, à devoir paraphraser des choses que je dis d'une autre manière, pour moi, je desserre ce que j'essaie de dire en dessinant. Donc je vais pas non plus chercher à m'imposer, à dire « Ah, regardez-moi, écoutez-moi, j'ai quelque chose à dire, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire ». Donc maintenant, peut-être que, en effet, des associations ou des conférenciers peuvent en parler, mais moi, j'estime que je peux pas en parler mieux qu'en bande dessinée. C'est une question de langage, en fait. Moi, mon langage, c'est ça. Une petite tradition à PFM, on aime bien poser des questions un petit peu plus sympas quand l'interview se passe bien. Donc, est-ce que tu peux me dire quel est ton livre ou ta bande dessinée du moment ?
Qu'est-ce que je lis en ce moment ? Rien du tout. Mes partitions de piano. Et c'est tout ce que... En fait, je suis désolée, mais c'est...
C'est pas grave. C'est,
moi, là, de toute façon, j'ai fini l'album en janvier. Depuis, je suis coupée du monde. C'est-à-dire que je vivais avec France Inter, par exemple... toute la journée pendant l'album et donc je lisais énormément de choses, mais là je fais un rejet, sauf du piano.
Et pas de cinéma non plus.
C'est drôle que tu me poses cette question parce que justement j'avais un commentaire de lecteur sur le blog l'autre jour qui me parlait d'Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry et qui faisait un parallèle entre mon livre et Michel Gondry.
Ah oui.
Et j'étais juste mais tellement mais... Oh, enthousiaste, enfin, je tombais des nues qu'on me sorte ça parce que c'est un de mes films fétiches qui a énormément enfin, d'importance pour moi. S'il doit y avoir un podium, il est dessus. Si mon héroïne s'appelle Clémentine, c'est à cause du film, parce que quand j'ai commencé à écrire l'histoire, c'est au moment où le film était sorti. Pour en dire l'importance que ça a, quoi. Donc si je dois citer un film, ça serait celui-ci.
Pour assouvir ma curiosité, et peut-être aussi la vôtre, chers auditeurs de PFM, je me suis connectée au blog de Julie Marot sur le www.juliemaroh.com. J'y ai trouvé le commentaire publié par le lecteur Nicolas. J'espère qu'il ne m'en voudra pas de vous faire une lecture de son commentaire. Ensuite, j'ai découvert le scénario et j'ai adoré. L'histoire est magnifique, loin des clichés, efficace et surtout très poignante. Je l'ai lu un soir et je vous avoue avoir eu du mal à dormir après ça. On en sort avec une sensation complexe, une boule au ventre, le cœur serré mais content. C'est le genre de tristesse qu'on adore ressentir. J'ai beaucoup pensé au film Eternal Sunshine of the Spotless Mind, film qui a facilement sa place à mon petit panthéon personnel. Le film est certes finalement bien moins tragique, mais on y retrouve le même type de sensation. Et surtout, je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir en tête Everybody's Gotta Learn Sometimes de Beck pendant toute ma lecture. Pour continuer le parallèle avec ce film, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. C'est vraiment un compliment venant de moi. Comme pour l'œuvre de Gondry, je crois qu'après avoir refermé la dernière page, on en retient surtout une sublime histoire d'amour. Après cette lecture, il ne me reste plus qu'à souhaiter une bonne route à Julie et à sa première bande dessinée, Le bleu est une couleur chaude. Retrouvez l'interview sur le site de PFM, www.radiopfm.com, avec l'intégralité des reportages du Salon du Livre, d'Expression Populaire et de Critique Sociale du 1er mai à Arras.
Merci Elena pour ce sujet que tu as réalisé samedi. Alors, donc on rappelle le nom de la BD, c'est Le bleu est une couleur chaude, hein, c'est ça. Alors j'imagine qu'on peut l'acheter dans les bonnes crèmeries de BD, mais est-ce qu'on peut aussi le lire gratuitement dans les médiathèques, les bibliothèques ?
On peut le lire gratuitement pour les Arrageois. J'ai vu qu'à la médiathèque d'Arras au Palais Saint-Va, ils viennent de l'acheter. Et là, elle doit être sortie parce qu'elle était sur le présentoir des nouveautés. Elle doit être sortie en ce moment, mais en tout cas, ils l'ont acheté au Palais Saint-Va à Arras. Et sinon, je pense que ça vaut vraiment le coup de l'acheter si on aime la BD, parce qu'au niveau des dessins, c'est magnifique. Et bon, 15€, 156 pages, bon voilà, je pense que ça peut valoir le coup.
Ok, alors ce que je te propose de faire, c'est d'enchaîner. Alors tu parles dans le sujet, il y a pas mal été question de ce film, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, de Michel Gondry, avec Jim Carrey.
Oui.
Et donc, et voilà, donc ce que je te propose, c'est de continuer un peu sur la même veine avec ce rappeur qui s'appelle Jay Electronica, qui a repris en fait la bande-son, enfin le thème principal du film, et qui rappe dessus. Donc Jay Electronica dans Decibel.
Thank you. She said she never fell in love with a Superman, Christian, Muslim, Protestant, Lutheran. I told her that being immortal is the portal to the true nature of growth to Christ like Buddha, man. That's why I never spit the traditional garbage of a knife fight, bright lights, white ice to the fans. The radio was just a stereo, like a house ain't a home, and the chairs that the chair acts through the van. Go to work, go to church, let your dreams die. Bow tie, final call, and the bean pie. Yarmulke for Hanukkah, wish list for Christmas. This is the gist of the life that we lead. Why? So you can fit in with the closed-minded in the city, and to get clotheslined in the it end. I could care less about a plaque in the bid end to get pumped on TV by my friends. Don't get a nigga wrong, I get tempted by the rewards that all come along with making nigga songs. But what does it mean if I'm a Muslim and you a Jew, and because of that alone we don't get along? And when you talk like this and try to walk like this, the radio stations will never put a nigga on. Just Mims, just 50, just Wayne, just Jeezy, them franchise boys and Jimmy Jones. Fuck that, fuck rap, this God hop, kingdom music for the hard rocks. I'ma spit it, tell TRL, get it in hot. 97 hit a nigga with a bomb drop. X Flex, X Slay, X Who Kid, just Blaze said Jig is the new kid. I took Eternal Sunshine and I looped it. No drums, no hook, just new shit. Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
Does he get it?